Vraiville PM. Faut que je te raconte.
Je roulais avec un chronomètre. Alors, je disais, mettons, je vais faire un show à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, mettons, je mesure. C'était toujours la sortie du tunnel, aller aux quatre coins de Saint-Georges. Là, j'avais un calepin, Montréal-Saint-Georges. Yes, c'est pas du mon record. C'est une maladie mentale.
Voici Michel Barrette.
Et
il est en studio, mesdames et messieurs. Il oui. a réussi à se lever de son grabat.
De son grabat. Et là, les gens qui m'ont rencontré, ils disent, ça va, M. Barrette? Non, parce que je marche avec le même angle que la tour de Pise et j'ai l'impression d'avoir 150 ans, mais ce matin, monsieur, il y a une limite à ne pas bouger, là, puis être ankylosé, puis à me traîner après un meuble. Je vais bouger un peu, ça fait qu'au moins, je me dis, ça va peut-être aider à ce que mon mal de dos se résorbe.
Se résorbe.
Ouais. Et donc, là, merci de ton histoire de petit coussin dans
ben
le dos.
Oui, c'est mon petit boudin, mon petit boudin, mon petit ballot. Je vous l'ai déjà expliqué, là. Je traîne ça, moi, là, je me suis fait comme un... C'est comme un... C'est une couverture, dans le fond, roulée. J'ai demandé à une couturière de m'envelopper tout ça. Et je traîne ça tout le temps, je m'appuie là-dessus. Alors, je l'ai prêté à mon ami Michel.
Oui,
et là, tu t'appuies
mon... oui,
ça, c'est
le
ça?
Dos plus droit.
Et voilà.
Je t'en appuie sur la colonne vertébrale, je ça. Sens que ça m'aide.
C'est voilà.
Alors... Bon, mais ça ne sera pas le sujet du jour.
Non, c'est quoi le sujet
ben,
du jour?
Je pense que ça a sorti une statistique concernant les gens qui sont sur les jeux. Tu as parlé tout à l'heure avec les gens.
Une maman. Une maman là, dont le fils jouait gaming, comme on dit en bon français, là, jouait sur PlayStation. Bon, finalement, il s'est fait manipuler, le pauvre petit gars de 8 ans. Et puis la madame, elle s'est retrouvée avec une facture de 5 000 $. Fait que là, on s'est dit, les jeux.
Ouais. Il y a les jeux, mais il y a la compulsion dans le jeu. Mon angle, je vais essayer de vous l'expliquer clairement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un gamer, mais dans le temps des fêtes, en vacances, j'avais ma tablette. Et là, je suis embarqué sur un jeu qui s'appelle Red Sniper, ou je ne sais pas quoi. J'étais un espèce de tireur d'élite avec des missions. Et malgré moi, j'ai tellement aimé ça, puis ça allait bien, je me trouvais bon, que là, j'ai atteint des niveaux où ça me prenait une arme plus forte. Après ça, ça me prenait des munitions. Et ma blonde, en 3 jours, m'a dit un moment donné, mon amour, tu sais que t'es rendu à 250 $ d'achat de bébelles. Quoi? J'ai dépensé 250 $. Elle a dit oui, mon amour.
À coût de 5 $, 10 $,
15 $. Ah ouais, donc, tant qu'à faire, on va prendre le format avec l'arme plus grosse tout de suite. Comme ça, j'aurais pas besoin de le refaire tantôt. Alors, de manière compulsive, je me suis mis moi-même. Alors que moi, qui dis, voyons, les jeunes, ça n'a pas de bon sens. Puis notre fils qu'on contrôle justement dans ces jeux, le même jeu, d'ailleurs, il y a des centaines de milliers de millions de personnes.
Fortnite, c'est la folie.
Il est là-dessus, mais bon...
Celui qui a 12 ans, ça, ou 14?
Celui qui a 12 ans.
12 ans.
On le contrôle parce qu'il n'y a pas de code d'accès. C'est-à-dire que s'il a besoin d'acheter quelque chose, il faut qu'il nous le demande. C'est ma blonde qui rentre le code. Et à un moment donné, elle dit non. Là, c'est assez. Maintenant, si tu veux acheter quelque chose d'autre, tu vas prendre même ta paye hebdomadaire.
D'accord.
Comme ça, tu vas choisir entre...
Tu gères ça pas mal comme on essaye de gérer ça.
On essaie de gérer. C'est mais ça. En même temps, il n'y a pas que les enfants qui sont compulsifs. Ma blonde, qui est zéro compulsion, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle n'est jamais dans l'excès. Un moment donné, elle a ressorti sa vieille console, je ne sais pas, Genesis, je ne sais pas quoi. Elle jouait... à Super Metroid.
Comment?
Super Metroid.
C'est quoi ça?
Je sais pas c'est quoi. C'est une affaire des années 90. Je l'ai perdu pendant 2 jours. Mes enfants ne comprenaient plus. Moi, je ne comprenais plus. Ma femme était rendue une druggie. Il n'y a plus moins d'y parler. Je dis, penses-tu qu'on va super mon année, mon amour? Ça me dit quelque chose? Pas à tout, elle ne me répondait pas. Super Metroid.
Oui, elle était dans sa bulle.
Mais un jeu d'une autre époque, là.
Oui, oui.
Parce qu'elle jouait à ça quand elle était floune, j'imagine. Puis là, elle est tombée là-dedans. Il a fallu débrancher, là. Il fallait appeler la police. Il disait, venez la chercher. Alors, que ce soit. Alors, on va éviter ce midi de parler de jeux de console, parce qu'on pourrait en parler, mais on t'en a parlé quand même longtemps tantôt.
C'est ça.
Est-ce que vous avez, en dehors de l'alcool, de la drogue, du jeu compulsif, avez-vous des compulsions qui. Exemple, moi.
Des choses à laquelle vous ne pouvez pas résister.
Moi, là, je suis un collectionneur fou, OK? Je collectionne, tout le monde sait, les voitures, les affaires. Mais il n'y a pas juste les voitures, les motos, les vieux vélos, puis les antiquités, les livres. Moi, je ne peux pas rentrer, exemple, chez Renaud Bré, sans que ça me coûte 200-300 $. La pile de livres comme ça, j'achète 65 titres de magazines par mois.
Oui, mais moi aussi, je fais ça, mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps des livres.
Ben, moi, j'ai une pile à côté de moi, puis quand ma blonde se couche, là, je tombe là-dedans, puis j'ai tout le temps 3-4 livres avec des post-it que là, je suis rendu là. Des fois, il faut que je recommence, je me souviens plus.
Fait que t'es un acheteur compulsif.
Je suis un acheteur compulsif.
Un acheteur notamment de livres.
Ah, de livres, d'antiquités. Écoute, moi, donne un exemple. Il y a plusieurs années, ma sœur Sylvie. Écœuré, moi, dire le terme, avait peur parce que j'avais toujours la montre de mon grand-père. J'avais hérité de la montre de mon grand-père. Je portais toujours la montre de mon grand-père. Elle dit, t'as pas peur de la perdre? J'ai dit, oui, j'ai peur de la perdre. J'ai peur de l'endommager, mais tu sais, pour moi, c'est un attachement.
Oui. Oui.
Bon. Alors, pour Noël, elle m'a offert une montre. Et pour la première fois, j'ai regardé c'était quoi une montre. J'ai dit, c'est donc bien un bel objet, une montre. Hein? Des bracelets différents, des couleurs. J'en ai acheté 35 depuis.
Mais voyons, Michel.
Mais c'est une compulsion. J'ai une maladie mentale, certainement. Alors, est-ce que vous avez une compulsion sur la bouffe, sur le...
Ouais.
Ça peut être les chips.
Ça peut être n'importe quoi.
Hey,
790-9850. Qu'est-ce que tu vas me dire?
L'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait ici?
Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai laissé dans le tiroir...
Tu fais beaucoup de choses quand tu viens ici,
oui,
toi.
Oui, un sac de crottes au fromage.
Hey!
Bon, hey, est-ce que t'es capable de résister?
Pas en tout!
Les Humpty Dumpty, là?
Hey!
Les oranges qui tâchent les doigts,
puis tu me connais même pas.
Non.
Puis tu m'as donné cette...
Mais j'ai senti quelque chose.
Écoute, la tente, écoute, le sac de crottes au fromage, j'ai été incapable de résister. Et là, je suis en train de dévoiler ma compulsion.
Mais c'est parce que là quand j'ai vu... Moi, je t'ai vu, je t'ai jugé comme un pusher. Mais je me suis dit, lui, à mon avis, là, sa drogue, ça ressemble à ça. J'ai mis la drogue, c'est-à-dire...
Non, t'as pas juste fait ça. T'es pire que ça. T'es vraiment haïssable.
Que j'ai fait?
T'es un méchant. T'es un méchant crapaud. Parce que t'as laissé... une barre de chocolat dans mon, oui, dans mon tiroir à gauche dans lequel je vais chercher mes crayons feutres puis mes affaires.
Il était beau, hein? Blanc, à la vanille.
Mais t'es vraiment hissant parce que tu l'as pas mis comme... Tu l'as comme glissé en dessous de mes affaires.
Oui, oui.
Fait que là, je fouille, mais j'ai une barre de chocolat blanc. Je fais comme...
C'est bon, hein? C'est-tu bon?
Parce que moi, c'est du sucre.
Oui, OK. Alors, ta compulsion?
C'est l'enfer. L'enfer. Non, non, c'est vraiment problématique.
Une bébête à sucre.
Moi, je suis dopé. Moi, je suis sûr. Moi, là, il y a une couple d'années de ça, avant même que ça s'écrive.
OK.
Je me suis dit, je suis certain à un moment donné qu'il y a un scientifique qui va écrire que le sucre est une drogue.
Comme la nicotine et tout ça.
Exact. J'ai dit, certain, c'est comme ça je me sens. Genre, 2 ans plus tard, je me suis dit, j'aurais dû l'écrire, j'aurais fait rire de moi ben, pendant 2 ans. Mais au bout de 2 ans, il aurait dit, Christy, Drainville avait raison, c'est une drogue.
Hey, si t'avais écrit un livre là-dessus,
je sais.
L'argent que t'aurais fait, as-tu idée le nombre de chips? Au fromage, je serais pas acheté.
Bon, on a Normand, déjà, qui nous appelle. Ben, c'est le fun. 790-9850. Bonjour, Normand.
Salut, Bernard. Salut, Michel.
Bonjour,
Normand. Regarde, Michel, toi, tu vas me comprendre un peu. Là. Moi, j'étais un tripeur de bébé à la gaz.
Oui.
Donc, c'est surtout des chars qu'on pourrait considérer classiques un peu, là, de mon époque. Moi, j'ai 30 ans. Fait que, quand je tombe sur un deal, là, un bazou à 500$, moteur sauté, quelque chose du genre...
Faut que tu l'achètes.
Il faut que je l'achète. Je suis en train de rouler un Pathfinder 94, que je suis en train de retaper, que je veux faire un truc de beau avec. J'ai une Corolla 91 dans le garage.
Hey, dis-moi une chose. Est-ce que t'es comme moi? Moi, là, je trouve toujours une raison pour laquelle j'ai besoin d'une autre voiture. OK? Toujours. Ah, mon amour, hey, écoute. Ah non, elle fait pas une autre voiture. Là. C'est assez. T'en as eu 172 dans la vie. T'en as comme 22 dans ton garage. Oui, mais j'ai jamais eu... Écoute-moi, mon amour. C'est rare, ça. Tellement... là, toujours une raison qu'il n'y a pas de rapport là, pour acheter un autre bébelle. Fait que...
Êtes-vous de même, Normand, en terminant?
Oui, absolument.
Vous avez l'air découragé.
C'est toujours... quelque chose qui va virer en truck de camping, ben non, quelque chose que je vais m'en départir au bout de 6 mois. Tu sais, t'as le droit de plaquer 10 chars par année à la sac, puis là, je suis rendu au point, il faut que j'en passe une nom à la blonde, des fois.
Et bon. Ah, et quand on ira en thérapie ensemble, monsieur.
Merci, Normand. Alors là, je suis Gear Aolic. Gear Aolic, je possède des guitares, 12 guitares, des basses, pianos, speakers de studio. Gear Aolic. Bon, OK. Il y en a un autre qui dit « Je suis cinéphile. J'achète beaucoup de films. J'ai une grosse collection, presque 3000.
Hein?
3000 films?
Hey, moi, 400-500 me trouvait fou en film.
T'as 3000?
Oui, 300.
T'as 400-500 films?
Films, oui.
En DVD, là, genre?
En DVD, oui.
Non, mais c'est parce que tu peux les acheter maintenant sur Internet.
Non, non, parce que j'aime l'objet.
OK.
Comme le livre, en tablette, là.
Ah non, moi, ça, j'aime pas ça non plus. Bon, Guy, bonjour!
Bonjour, monsieur, vous allez bien?
C'est votre compulsion à vous, c'est quoi?
Ben, ça a commencé, j'étais très jeune, puis cette année, mon mari et moi, on a fait le décompte. J'ai 188 crèches de Noël.
188
crèches de Noël.
Okay. 188 crèches. Hey, ouais. Zavarot à Noël en sacrifice, vous.
Le monde, il n'y a plus de place pour les cadeaux. Non, c'est pas le côté religieux. Vraiment, c'est juste les souvenirs que ça me rapporte de ma jeunesse avec la famille. Ma mère commençait sa crèche, ça lui prenait quasiment une semaine au complet parce qu'elle partait du plancher, puis elle s'en allait jusqu'au plafond avec des chaises, des tables, des boîtes et tout pour monter son village, puis sa crèche, puis ses personnages.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, ça vous ramène à votre enfance. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs compulsions
qui sont liées à ça.
T'as raison,
c'est un bon point. Oui. Merci Guy pour l'appel. Alors là, j'ai quelqu'un, Lucie. Elle dit, moi, c'est les soutiens-gorge.
Elle collectionne.
Elle dit, les vendeuses d'un magasin de lingerie m'appellent par mon nom.
Ah oui. Moi, j'ai déjà eu cette belle combustion au sub, mais c'était pour la même raison.
Patrice, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, là.
Ma compulsion, c'est les disques vinyles.
Ah? Ah, combien?
Je suis rendu à tout près de 1000 unités, à peu près 1000 exemplaires. Je cherche principalement les albums des années 70, ce qu'on appelle les first press, les premières éditions.
Mm-hmm.
Même s'ils sonnent comme de la M,
c'est
pas grave. Le fait d'avoir la première édition dans les mains, c'est toujours très excitant.
Ben, écoutez, monsieur, pour vous prouver que je suis compulsif, j'avais mes 10 ou 12 albums 33 tours préférés de mon adolescence. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je vais faire un retour là-dedans, les 33 tours. Maintenant, j'en ai 4000.
4000
dont je.
Vinyle,
là. Oui, vinyle. Dont Les Misérables, Les Affaires rares.
Patrice, vous êtes en bonne compagnie, là.
Des albums jamais ouverts.
Très bonne compagnie.
Merci pour l'appel. Là, j'en ai un.
Concernant les brassières, c'est qu'à un moment donné, dans le temps de l'IA Tremblay.
Je pense qu'on dit soutien-gorge maintenant.
Ah, c'est plus les brassières? IA! Dans le temps de l'IA. L'IA, il disait qu'il était tellement beau, mon personnage, que lorsqu'il rentrait sur scène, les femmes lui lançaient des brassières. Alors, ça l'a pris à peu près un mois que ça s'est dit partout en province. C'est quand j'arrivais sur scène, les femmes me lançaient. Là, parce que t'appelles les soutiens-gorge.
Ils les enlevaient pas sur place, là.
Des fois, oui.
Ah oui?
Je recevais des soutiens-gorge sur scène, puis je les ramenais à la fin de la tournée. Mais tu reviens de tourner.
J'allais dire, ta femme, elle devait être contente.
Tu sais, une brassière, t'es dans le trou, mais quand tu reviens avec 350 brassières, c'est une tournée.
Alors, il y en a un, oui. Il y en a un, c'est les bouteilles de gin. Il dit, aussitôt que j'en vois une, je l'achète. Il dit, j'ai des armoires vitrées juste pour ça. Je dois en avoir une trentaine.
Des anciennes bouteilles, imagine, de Dick Hyper.
Oui, mais tu sais qu'à cette heure, on produit du bon gin au Québec. Oui, on est parmi les meilleurs au monde.
Oh, spécialement au Saguenay. Hein?
Au Saguenay, mais partout.
Oh, mais le meilleur.
Le meilleur est toujours. Mais c'est toujours meilleur au Saguenay.
Ben oui.
C'est toujours meilleur au Saguenay.
Comme le Texas.
Michel, bonjour.
Bonjour. Je suis content de parler aussi, puis que M. Barrette puisse être là. C'est mon idole. Hein?
C'est vrai?
Merci, monsieur.
Oui. Bon. Et voici, moi, là, j'ai une compulsivité sur les lampes de poche.
Ouais,
ce qu'on disait, là, moi, jeune, flashlight, là.
Ouais, ouais.
Pour moi, là, j'en ai une centaine, au moins.
OK.
Ça part de ceux que je donne, je passe chez le tailleur, là, puis c'est pas à cause de Pokémon, là. Je viens en tabarnak parce que j'ai les ajoute toutes.
Mais d'où c'est que ça vient, ça, cette compulsion-là, ouais. Michel?
Je n'ai aucune idée.
Une lampe de poche.
Mon vieux père, il a 79 ans. Quoi? T'as pas de lampe de poche? Comment ça? Voyons donc. C'est comme une montre. Faut dire une montre. J'ai acheté des lampes de poche à mon frère, à mon fils, à tout le monde. Et pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas peur du noir pourtant, là.
Non.
Mais écoutez, j'en ai une là qui a trois pieds. C'est une affaire tactique
de
GIT, là.
Oui, oui, ouais, ou des anti-émeutes, là.
Ouais. Bon. Mais moi, c'est... je sais pas pourquoi.
En tout cas, vous êtes peut-être content qu'il y ait eu une panne de courant, vous. Hein, ben, enfin.
merci Michel, pour l'appel. Oui, ben justement, parlant de lampe de poche, on va parler du verglas. Après la pause.
Deuxième sujet.
Oui.
Le 22 de 98 et le petit échantillon qu'on a eu cette semaine.
Oui, d'ailleurs, il y a des gens de Terrebonne qui viennent de m'écrire là, pour me dire, hey, on est encore,
encore
2000 ou 3000 à Terrebonne, on n'a pas de courant, oubliez-nous pas. Là. Ben, on vous oublie pas, on sait que vous êtes là. Puis au retour, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, je m'en vais voir Michel en spectacle dimanche soir, il va être sans forme à cause de son mal de dos.
Il va falloir que je le sois, parce que demain soir, je suis en spectacle à Chicoutimi et dimanche au
Distrait. Monsieur. Bon, OK, fait qu'après la pause, le verglas, parce que t'as quelque chose à nous raconter là-dessus.
Trainville PM. Faut que je te raconte.
Une crise comme celle-là, c'est très important de tenir la population informé. De Boucherville à Montréal, la ligne de transmission s'est effondrée. Je l'ai entendu. J'ai entendu le bruit. Je l'entends encore. Et là, j'ai compris que c'était très sérieux et qu'il fallait que ça arrête.
Voici Michel Barrette.
Ça, c'est André Caillé en 2018, donc l'ancien PDG d'Hydro qui était là au moment du grand verglas de 1998. Et toi, t'étais là.
J'étais là, mais avant, là, merci aux auditeurs parce que vous Vous suivez et vous participez.
Vous participez. Oui. Ah ouais, c'est ça. Les cadrans, les horloges. On parle des compulsions. Cadrans, horloges, les montres, les verres de bière, les livres de recettes, 1000 livres de recettes, le gin, 95 bouteilles, les 78 tours, 25 000 calendriers d'équipes différentes, 42 000 DVD, tout acheté neuf. Voilà des exemples de compulsions du sujet d'avant la pause.
Mais maintenant, après la pause.
Voilà.
En 1998, en tout cas, ceux qui ont vécu le Verdelon, on se souvient tous de l'avoir vécu, comment on l'a vécu. À ce moment-là, moi, je vivais à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, qui a été, je crois, le dernier village rebranché du Québec parce que c'était une coopérative électrique.
Mm.
Tu sais, qui était comme parallèle au système d'Hydro-Québec.
Exact.
Alors, Hydro a bien sûr commencé par rebrancher leurs abonnés. Et nous, on a été les derniers. Je pense que j'ai été 21 jours, quelque chose de genre. En tout cas, le plus long du Verdelon, je l'ai vécu dans la maison, dans le sous-sol. Mes enfants à Sherbrooke avec ma femme.
T'étais-tu seul dans ta cabane?
J'étais seul dans ma cabane. Et j'avais une génératrice, une petite génératrice que je devais remplir aux 3 heures. Et j'étais en bas devant le foyer, à mettre des bûches pour pas geler, à écouter la radio, puis j'écoutais notre ami Claude Poirier.
Oui.
Mais entendre Claude Poirier, 24 heures sur 24, et spécialement la nuit, là, t'avais l'impression que c'était la fin du monde. J'avais l'impression de vivre la fin du monde. Et, sais-tu quoi?
Vas-y.
Alors, heureusement, je travaillais à la télévision, je prenais ma douche dans les studios de TV, bon, j'ai réussi à survivre quand même, mais quand j'arrivais à la maison, j'étais vraiment seul, avec la radio, à entendre Claude Poirier et à me réchauffer comme ça. Et sais-tu quoi? Quand le coin est revenu, j'étais à la fois content, mais j'ai comme pogné un petit down.
Hein?
Ouais. Parce qu'il y avait une espèce de côté contemplatif de rien parce qu'il faisait noir. Puis bon, ma génératrice me permettait de brancher une lampe et la radio. C'est tout. Je ne vais pas brancher autre chose. Sinon,
tu lisais puis t'écoutais la radio?
Ouais, je lisais à la lueur de la lampe et à la lueur de mon foyer. Et au bout de 21 jours, ce rythme-là...
T'étais devenu une sorte d'ermite.
De moine tibétain sans
le
Tibet. Oui,
un contemplatif.
Un très contemplatif. Je t'ai rendu pas loin de mon nombril dans la contemplation. J'ai vraiment poigné un petit don. Puis là, c'est comme si le roche était revenu. Tout ça a fonctionné. Puis le frigidaire, puis t'as tapé le poil de la
vie. Et la vie de fou qui vient avec.
La vie de fou qui vient avec. Alors, c'est pas le sujet. J'ai dérapé un peu, là.
Non, mais c'est un peu ça le sujet, parce qu'on s'est dit un matin, on va... Tu sais, le lien, c'est...
Ça a changé
ce qui s'est passé cette semaine, évidemment, c'est ça l'actualité. Mais on sert de ça pour vous poser la question, vous qui avez vécu le verglas.
Et qui viennent de vivre deux, trois jours et qui vivent encore chez certaines personnes.
Non, mais ceux qui l'ont vécu comme toi, êtes-vous resté marqué par ça? Y a-t-il des habitudes, des choses que vous avez commencé à faire à partir de 1998 qui ne vous ont plus quitté?
La génératrice?
Je sais pas. Toi, là, dans les années qui ont suivi?
Dans les années qui ont suivi...
T'es-tu resté comme marqué? Dans le fond, c'est ça la question.
Oui,
êtes-vous resté marqué par le
verglas? Je manquais jamais d'eau, je manquais jamais de batterie, j'avais toujours de l'essence pour la génératrice. Je me disais tout le temps, dans ce cas-là, c'était le verglas, mais sans tomber dans la paranoïa, je me suis dit, bon, ce cas-là, c'est le verglas, mais ça peut être autre chose. Les catastrophes naturelles, il y en a. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires qui font que, sans tomber dans le survival, dans les survivalistes qu'on appelle...
C'est ça. Mais
je n'étais pas là-dedans, mais j'étais en chemin vers ça. En me disant, écoute...
Puis t'as-tu perdu ça ou t'en as gardé un peu de ça?
J'en ai gardé un peu de ça parce qu'on a rapidement des réflexes. On sait toujours où se trouve la lampe de poche. On sait toujours où se trouvent les bougies, les batteries.
Oui, oui.
Comme ça, si jamais ça arrive, on n'est pas en train de se chercher puis de longer les murs. Puis j'ai une génératrice, bien heureusement, bon, ceux qui ne savent pas, je vis à l'hôtel, alors il y a une génératrice à l'hôtel, je suis correct, là, grâce à l'hôtel.
Mais toi, tu pourrais te nourrir, mettons, là.
Ben oui, avec un hôtel. Ben,
pourrais te nourrir.
Me nourrir, et à la limite, j'ai pensé récemment, me disais, si jamais ça revenait, maintenant que je suis propriétaire d'un hôtel, je pense que je pourrais accueillir les gens du village.
Ah, c'est bon, ça.
Oui, dis mon
instinct. Pourrais m'accueillir.
Des lits de camp, des gens du village, puis dire, on va survivre ensemble.
C'est bon. Tu vois, il y en a un qui m'écrit et dit, jouer de la musique. Un peu comme toi, là, je pense que lui, il est devenu un peu contemplatif, du genre, il jouait de la musique dans le noir, j'imagine. Mm-hmm. Puis il me dit, l'auditeur, il me dit, j'ai gardé ça du grand verglas, moi.
Il y a des fois qu'on a le goût de débrancher.
Oui, oui.
Tu sais, je vais te donner un exemple. On a eu des pannes de courant, là. À l'hôtel, on ne le vit pas longtemps, la génératrice embarque. Mais les quelques minutes entre on perd le courant et la génératrice vient d'embarquer, quand la TV se ferme, puis que l'éclairage se ferme, il y a une espèce de silence.
Ouais.
J'étais avec ma blonde et deux de mes fils, Nicolas, 26 ans, puis Jonathan, 12 ans. Et subitement, on avait comme le goût de jaser.
Ah, j'aime ça.
Parce qu'on vivait quelque chose ensemble, c'est-à-dire la noirceur. Puis quand le courant est revenu, la TV... Alors, des fois, je pense qu'on devrait tous nous débrancher juste pour retrouver ça.
Ça pourrait être un programme, ça?
Hein?
Une fois de temps en temps, dans l'année...
On débranche.
On débranche, et tu... Regarde, bien sûr, d'avoir une idée.
Oui.
On débranche, on prend le courant, on le vend aux Américains, aux Ontariens...
Hey, l'argent qu'on fait.
Puis on fait un chèque. Ouais. Hydro-Québec vend le courant, on ne l'utilise plus, on est débranché.
C'est ça.
Pendant ce temps-là, on se retrouve entre amis, avec la famille. Puis là, ils nous envoient un chèque avec l'énergie qu'on n'a pas consommée.
C'est pas fou, ça.
Hein?
Tu sors le barbecue dehors, tu fais un bon souper sur le barbecue qui n'a pas besoin de courant. Oui.
Hein?
On soupe à la chandelle.
Ouais.
S'il y a quelqu'un qui a un talent musical, il peut nous jouer de la guitare, l'harmonica, je sais pas.
Il y a quelque chose là-dedans. Bon, là, Mélanie nous appelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors?
En fait, en 98, j'étais en début de carrière comme éducatrice spécialisée, puis j'ai travaillé au centre d'hébergement pendant les deux semaines où ça a été ouvert à Châteauguay.
Oui.
Et par la suite, ça a développé mon goût pour la prévention, les mesures d'urgence. Fait que je me suis créé mon propre site. En fait, je suis la catastrophologue et j'aide les entreprises à prévenir.
Ah, vous avez fait un travail de ça, vous?
Vous êtes une catastrophologue.
Voilà.
Catastrophologue.
Je ne savais pas que j'existais, moi.
Ben, c'est grâce à elle que ça existe.
Je ne sais pas, fait que j'ai déposé une marque de commerce. Je suis la seule au Canada.
C'est vrai?
Vous êtes la seule catastrophologue. Alors, mettons, j'ai besoin de vos services, ça fait quoi?
Ben, en fait, je regarde avec vous qu'est-ce qui va faire en sorte que votre entreprise ne fera plus d'argent à cause d'une catastrophe quelconque, puis comment on peut essayer de prévenir ça. Fait que, par exemple... ça peut être la rupture de la chaîne d'approvisionnement ou les restos cette semaine qui ont complètement été saturés, manque de staff, manque de nourriture, mais en même temps, la gestion des réseaux sociaux, des gens insatisfaits. Comment ça, vous n'avez pas été capable de nous accepter à l'intérieur? On avait faim. C'est vraiment là, de regarder toute l'araignée des impacts. Les résidences pour personnes âgées qui ont besoin de leurs employés, OK, mais on fait quoi avec les tout-petits à la maison? Ben là, on peut-tu les amener au travail? Si oui, on les nourrit comment? À quoi il faut réfléchir? Au niveau des assurances, il faut réfléchir à quelque chose.
Très bien, merci.
On apprend beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, Mélanie, pour l'appel. Alors là, quelqu'un me dit, moi, j'ai vécu le verglas pendant 38 jours sans électricité en banlieue de Marieville, à 4-5 kilomètres de toi, Michel. Il dit, j'avais 19 ans, j'ai adoré ça, ça nous a beaucoup rapprochés.
Bon, la famille. Jours?
Ça a rapproché la famille énormément, 38 jours, qui dit.
Donc, ça veut dire que j'ai dû vivre 38 jours, ça devait être la même ligne de...
Et un autre qui dit, du verglas, j'ai gardé, moi, j'étais de la Rive-Sud, ma belle-mère était dans Lanaudière, j'ai gardé l'idée d'être gentil avec elle, on sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin de notre belle-mère. Guy, bonjour.
Oui, bonjour Bernard, ça va bien?
Très bien, on vous écoute là.
Oui, bien moi j'écoutais Michel tantôt, puis ça me faisait bien rire, parce qu'en 98, quand tout le monde a manqué de courant, moi je vivais dans ma municipalité qui avait non plus du courant, mais j'ai un camp de chasse pas très loin de là, environ une heure de route. Puis quand je partais de chez moi, à ma maison, bien c'était l'anarchie, il n'y a pas de courant, puis comme Michel disait, la génératrice, puis tout. Puis là, je m'en allais en skidou à mon camp de chasse, puis il y avait comme si le monde qui manquait du courant n'existait pas parce que j'étais fonctionnel à 100%. J'avais mon poêle à gaz, j'avais le poêle au bois, j'avais de l'eau du ruisseau, il ne manquait rien, j'avais même un radio avec des batteries, et je me disais, coudonc, ça se peut pas que chez nous, dans la ville, on vit encore plus rudimentairement que à mon camp de chasse. Fait que je disais, Christy, c'est le fun d'avoir comme un deuxième à côté. Pourtant, c'était bien rudimentaire, mais j'étais fonctionnel à 100%. C'était vraiment weird un peu à vivre comme situation.
Merci, Guy, pour l'appel.
Merci, monsieur. Et sais-tu quoi? J'écoute monsieur, là. Ça me rappelle que quand j'ai eu un chalet au nord de Chicoutimi, sur les Monts Valin, que je débarquais là, pas d'électricité, avec seulement la radio, le vent dans les arbres, les animaux. T'es là pendant 15 jours. Et t'as pas besoin d'être en panne pour être bien. Il n'y en a pas de panne, t'as pas de courant,
c'est
et t'es bien. Alors, je pense que je m'en vais aller dans le bois.
Hein?
Tourne dans le bois.
Ça va être bon pour ton dos. Oui. Dernier appel, Sylvain, bonjour.
Hey, salut les deux, ça va?
Salut, bien. Ben oui.
Ouais, moi j'étais, Michel, je voyais parce qu'il restait à Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'étais officier pompier sur la Rive-Sud.
OK.
Puis, fait qu'on a travaillé un mois de temps là, sans arrêt.
Ça a duré combien de temps, Saint-Jean-Baptiste?
Ben moi, j'ai eu 30 jours. Moi, je demeurais à Saint-Hilaire, pas loin okay. de chez vous, là. Puis moi, ça a duré 30 jours chez nous.
OK.
Sans électricité, mais c'est vraiment le fun, là. Moi, ma famille, ils ont parti sur la Rive-Nord. Moi, je restais dans la maison parce que je travaillais au poste à tous les jours. Puis mon plus beau souvenir de ça, comme disait Alexandra, c'est le 18 janvier à 21h45, j'ai fait un bébé.
Oh! Wow! Grâce au verglas!
C'est la seule journée que j'avais de congé.
Les bébés du verglas! C'est un gars ou une fille? Un gars ou une fille? Iceman.
Un gars, mon Iceman. Moi, c'est Simon. Puis en plus, il fait un concours à Halifax. Il représente le Québec dans un concours culinaire du Canada.
Bravo.
Ah, c'est bon. Bonne histoire.
Hey, as-tu remarqué que les gens ne nous ont pas appelé des histoires d'horreur? Non, les jeunes nous disent au contraire, on a fait jouer de la musique, on est allé dans le bois, on a fait un enfant, c'est on cool. a lu des livres.
Ah, c'est une belle histoire.
C'est quand le prochain verre de là? Qu'est-ce que tu m'arrêtes, moi, là?
Hey.
Arrête-toi.
Arrête-toi. Il y a encore du monde qui paye pour, là.
Oui.
Hey, à demain, fais attention à ton dos.
Ah.
Trouve-toi un petit boudin.
Parfait.
Après la pause, contrôle des armes à feu, le sénateur André Pratt va être avec nous.